Pour cette dernière partie, nous allons aborder l'eau sous un autre angle. Nous allons essayer d'aborder l'eau sous l'angle des usages de l'eau et des activités humaines en lien avec l'eau. Donc nous allons avoir un premier exposé sur la transformation de l'eau en ressource touristique depuis le 19e siècle, notamment par le prisme de deux activités, d'une part le thermalisme et d'autre part les sports d'hiver. Donc l'exposé sera réalisé par Steve Agimont. Donc Steve est doctorant au laboratoire Framespa, c'est-à-dire France, Amérique, Espagne, Société, Pouvoir, Acteur. Et il est également chargé d'enseignement en histoire contemporaine à l'université Toulouse-Jean Jaurès. Sa thèse, qu'il soutient bientôt, du coup, dans un mois, questionne les implications imaginaires, sociales, économiques et environnementales de l'essor du tourisme dans les Pyrénées, côté français et côté espagnol, du 19e siècle à nos jours. Je lui laisse la parole.
Merci beaucoup. Et oui, donc sur ce terrain, pour compléter, sur ce terrain franco-espagnol, l'Ariège a été un de mes cœurs de cible par comparaison avec, disons, sur l'histoire longue du 19e siècle, par comparaison avec le grand succès pyrénéen qu'a été Luchon, comment l'Ariège a pu se positionner et finalement essayer de comprendre pourquoi l'Ariège, jusqu'à ces dernières années, disons, n'a jamais réussi véritablement à se doter d'une image touristique alors que d'autres endroits ont largement réussi. Je suis parti de l'idée que les facteurs, les ressources naturelles en tant que telles, enfin objectivement, c'était pas ça qui était en jeu, c'était plus l'aspect subjectif et une capacité et un imaginaire qui n'a pas réussi à s'ancrer en Ariège, hein, à développer ces ressources touristiques. Alors, l'eau est une ressource absolument essentielle dans ce tourisme de montagne. Alors, donc l'eau est une ressource essentielle dans le tourisme, on pense évidemment aux bains de mer, mais pour la première forme, une des premières formes de tourisme qui a apparu au XVIIIe siècle, hein, au moment où on commence à vraiment parler, à pouvoir parler de tourisme, c'est-à-dire ce déplacement, hein, qui est effectué pour le loisir et pour le ressourcement, donc avec un aspect ludique et sanitaire indissociablement. L'eau en montagne, elle est essentielle à l'attractivité. Les eaux thermales, qui est un des foyers essentiels de cette attractivité touristique des montagnes, et donc là, c'est la plus-value des Pyrénées, avec très riche en eaux thermales, mais aussi les paysages, et dans les paysages, on isole les paysages où il y a de l'eau, et les cascades, les torrents, les lacs sont au cœur, au fondement de l'attractivité de cet imaginaire de la montagne, imaginaire romantique qu'on continue, qu'on connaît encore aujourd'hui. Alors pour cet exposé, je vais revenir dans un premier temps sur un exposé général, un peu chronologique de l'évolution du tourisme en montagne, les différentes activités qu'il y a eu et leur date approximative d'apparition. Et puis je m'appesantirai dans un deuxième temps, plus particulièrement sur Aulus-les-Bains et sur la station, voilà, pour essayer de coller au parc naturel régional et à la station de sport d'hiver de Guzenège. Et bien sûr, je reste ouvert après pour toutes les autres questions. Je laisse de côté Odinac, qui aurait été aussi également intéressante, même si elle a connu un développement assez limité. Alors pour cette histoire générale du tourisme depuis le XVIIIe siècle, disons, hein, je répète, voilà, au fondement de ce tourisme, il y a un imaginaire nouveau qui se porte tout particulièrement sur la montagne, un imaginaire nouveau de la nature, une nature qui devient un spectacle tellement désirable, un spectacle tellement qui fait tellement rêver, hein, qu'on va se déplacer pour aller voir ces montagnes. Alors évidemment, la Suisse, Chamonix avec ses grands glaciers et puis le Mont Blanc incarnent la quintessence du paysage de montagne, mais les Pyrénées, grâce à leurs eaux thermales, les Pyrénées qui sont anciennement fréquentées pour leurs eaux thermales, vont aussi recevoir, dès la fin du XVIIIe siècle, et en fait sans réel retard sur les Alpes, vont recevoir des touristes, donc des gens qui viennent là pour se plaire, profiter des paysages et profiter aussi de ce climat de montagne qu'on commence à apprécier, à valoriser. Bon, ce qui aurait pu être qu'une mode passagère ou alors être qu'une attitude ponctuelle, on avait vu déjà au XVIe siècle des gens venir en montagne, apprécier les montagnes, peindre des montagnes. Mais en fait, jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, cette attitude n'est que ponctuelle, elle ne prend jamais dans l'ensemble de la société. Enfin, c'est jamais un plaisir partagé que ces paysages de montagne. Au XVIIIe siècle, ça change, et à partir de là, eh bien, ça ne retombe plus, hein, et ce goût pour les montagnes se répand dans la société. Il y a deux saisons touristiques qui s'imposent dès la fin du XVIIIe siècle. En gros, hein, l'été. L'été, ben, c'est les séjours au bord des mers froides, mer du Nord, Manche, façade atlantique, les stations thermales et les montagnes et les Pyrénées ont les deux, les montagnes et les eaux thermales. Voilà, donc pour l'hiver, hein, eh bien, c'est les séjours au bord des mers chaudes, tout particulièrement au bord de la Méditerranée, avec une ville qui s'impose, hein, pour l'hiver, c'est Nice, qui connaît un succès extraordinaire qu'on peut encore voir dans l'urbanisme aujourd'hui le long du littoral. Voilà, les saisons s'inverseront quelque peu à partir des années 1930 seulement. Hein, Nice devient une station estivale seulement à partir des années 1930 et surtout après la Libération. Alors, dans les Pyrénées, donc, pas beaucoup de retard sur les Alpes pour le tourisme estival. Dès le début du XIXe siècle, en gros, les sites aujourd'hui les plus connus sont chantés un peu partout, hein, dans les écrits romantiques et pré-romantiques. Les lacs d'eau, de Gaube, les vallées du Lys, le Val d'Aran, Val d'Aran qui est en Espagne, mais qui est extrêmement apprécié par les voyageurs, vallée de Cambasque, de Campan, vallée de Campan, hein, qui est cette vallée pastorale par excellence que vont chanter les auteurs romantiques, le port de Vénasque, le plateau de Superbagnères, le pic du Midi de Bigorre, le pic du Midi d'Ossau, le massif du Néouviel, enfin bon, tout ça est déjà connu, chanté, et par-dessus tout, et peut-être que c'est le site pyrénéen qui a réussi, le seul qui a réussi à ne pas être ramené à l'archétype paysager suisse, eh bien, ce site, c'est Gavarnie, hein, Gavarnie, qui est l'image par excellence des Pyrénées. Donc très connu, hein, dès la fin du XVIIIe siècle, en fait. Ces sites, ils sont fréquentés depuis un certain nombre de stations. Il y a beaucoup de stations thermales, mais il n'y en a qu'un petit nombre, en fait, qui connaît un grand succès. Et ces stations à grand succès, c'est tout particulièrement Bagnères de Bigorre, fréquentée depuis très longtemps et qui connaît une vogue croissante à partir du XVIIIe siècle, depuis laquelle on va voir la vallée de Campan et le pic du Midi de Bigorre, évidemment. L'ensemble Luz, Saint-Sauveur, Barège, mais qui stagne un petit peu, Barège. Le site est jugé trop encaissé au XIXe. Et puis, il y a les grandes stations du XIXe siècle, vraiment, qui naissent avec la fin du XVIIIe et le XIXe siècle. Cotterêts et Luchon, qui est le grand succès des Pyrénées au XIXe siècle. Bon, voilà. Et là, à partir du moment où le succès a pris, hein, tout un ensemble de reproductions, des articles de presse, des ouvrages vont reconduire, en fait, cette légère avance qui a été prise au début, va être reconduite. Et voilà, bon, ces stations vont s'installer. À l'est, les Pyrénées qui sont à l'est de la Garonne, donc à partir de l'Ariège en gros, ces Pyrénées sont plutôt à l'écart de ce mouvement touristique. Évidemment, il y a Aix-les-Thermes, mais Aix-les-Thermes reste globalement jusque... pour toute son histoire jusqu'à récemment, jusqu'au développement des sports d'hiver, reste une station essentiellement médicale et elle n'a pas la renommée, Aix-les-Thermes, elle n'a pas la renommée de ses voisines des Hautes-Pyrénées et de Haute-Garonne. Pour les autres sites ariégeois, Aulus-les-Bains, Audinac, on est sur des fréquentations très modestes, même s'il se passe des choses très intéressantes, en particulier à Aulus, c'est ce qu'on verra juste après. Donc là, il y a un côté, voilà, c'est difficile à expliquer ce retard. Évidemment, les Pyrénées-Orientales vont s'imposer pour leur climat, mais elles ont longtemps une fréquentation bien plus modeste que l'Ouest pyrénéen. Au XXe siècle, là, voilà, ce panorama pour le XIXe siècle, au XXe siècle, une activité majeure apparaît, et cette activité majeure, elle signe quelque peu le déclassement des Pyrénées par rapport aux Alpes. Dans les Alpes françaises, au XIXe siècle, hein, on peut citer Chamonix, on peut citer quelques sites, on peut citer Grenoble, qui centralise un petit peu les excursionnistes alpins, mais en dehors de ces sites, et puis de sites de Piémont, comme Aix-les-Bains, comme Annecy, ben, finalement l'intérieur de la montagne alpine française est relativement moins fréquenté. Il n'y a pas les grosses stations qu'on peut trouver dans les Pyrénées. Au XXe siècle, ça va changer, évidemment, et c'est le paysage touristique qu'on connaît encore plus ou moins aujourd'hui, avec l'apparition de grosses stations dans les Alpes. L'activité qui change la donne, ce sont les sports d'hiver. Dans les Alpes, les promoteurs de ces sports d'hiver vont trouver des terrains vierges, beaucoup plus favorables que dans les Pyrénées, et avec un milieu local beaucoup moins organisé, beaucoup moins formé, que ce qu'il y a dans les Pyrénées, où il y a déjà une tradition touristique très forte et où il y a une certaine réticence à accueillir sans contrepartie les sports d'hiver. Je pourrais revenir sur ce détail, mais voilà, en tout cas, les Pyrénées marquent le pas au moment de l'apparition des sports d'hiver. Ces sports d'hiver, ils apparaissent tout début du XXe siècle, vraiment. On ne parle pas encore de ski alpin avant les années 1930. Ces sports d'hiver, ces premiers sports d'hiver, c'est la luge, le ski de fond, enfin les disciplines nordiques en général, que les stations commencent à mettre en, à exploiter au début du XXe siècle. Alors, au tout départ, les Pyrénées, en France, sont à la tête du mouvement, en fait, tête de l'investissement dans ces sports d'hiver, paradoxalement, avec deux sites qui sont aménagés explicitement pour les sports d'hiver en 1912. Ces deux sites, c'est Font-Romeu et Superbannière. On est en dehors de la zone de ce PNR, hein, mais voilà, on est autour, on est dans les Pyrénées, et là, grâce à la Compagnie des chemins de fer du Midi, dont on reparlera tout à l'heure, eh bien, voilà, les Pyrénées ont deux infrastructures pionnières en France. Mais ces deux sites, ils apparaissent avant le ski alpin, ce ski alpin qui se répand dans les années 1930. Et bah, ces deux stations qui sont nées à grand renfort de capitaux, hein, ce sont des investissements énormes à l'époque, Font-Romeu et Superbannière, eh bien, bah, ces deux stations, à partir du moment où le ski alpin apparaît, ces deux stations marquent le pas puisque leur topographie, leur exposition est beaucoup moins favorable à ces sports d'hiver. Bon, par la suite, en fait, les différents sites qui auraient pu recevoir des grandes stations dans les Pyrénées françaises, en tout cas, par une série d'erreurs et en tout cas par un désintérêt de l'État au minimum, eh bien, ces sites ne vont pas être aménagés. Alors, c'est en dehors du PNR, encore une fois, mais par exemple, hein, le site qui est identifié à partir des années 1950-1960 comme le site probablement le plus favorable pour les sports d'hiver dans les Pyrénées, c'est l'ensemble des Bézines au Lanou. L'ensemble des Bézines au Carlite qui ne sera jamais équipé. Voilà. Et là aurait peut-être pu naître une station de l'ampleur de ce qu'ont connu les Pyrénées espagnoles et les Pyrénées andorranes, hein, comme l'ensemble de Grand Valira ou Baquera. Une station de ce type aurait pu naître là, mais il a manqué un investissement, en fait, l'investissement de départ de la part de l'État, ce que l'État a fait dans les Alpes et n'a pas vraiment fait dans les Pyrénées. Voilà pour ce panorama, et puis pour finir, depuis les années 1970, en gros, on est sur une remise en cause des modèles des grands aménagements pour les sports d'hiver, une sorte de crise pour ces grands aménagements, doublée à partir de la fin des années 1980. Ça commence plus tôt, mais vraiment ça s'impose depuis la fin des années 1980. La problématique climatique, hein, et la succession d'hivers sans neige, on connaît ça en fait depuis les années 1900, ces hivers sans neige, mais il y a une accélération et il y a une gravité supérieure de ces hivers sans neige à cause des investissements, à cause de la quantité de capitaux qui sont immobilisés dans les stations de sport d'hiver et qui, chaque saison, hein, chaque fois qu'il va manquer de la neige, eh bien, les stations sont au bord du gouffre. La plupart du temps, ce sont les collectivités publiques, hein, qui épongent les dettes, en tout cas pour les stations modestes qu'on connaît dans les Pyrénées, dans une partie des Alpes. Voilà, et sinon, à côté de ça, c'est l'essor des sports d'eau vive depuis les années 1970, hein, voilà, une diversification assez généralisée des pratiques touristiques depuis les années 1970, en allant très vite sur ce panorama. Alors, deuxième temps plutôt, après cette histoire générale, bon, voilà, une Ariège longtemps exclue de cette hiérarchie touristique. Alors, je voudrais juste revenir peut-être sur le cas d'Aulus-les-Bains. Aulus-les-Bains, donc, qui est une station donc, thermale qui est développée en fait par une action délibérée de la préfecture de l'Ariège. Et là, c'est assez original puisqu'on est au XIXe siècle, à un moment où on n'a pas dans l'imaginaire une idée que l'État serait intervenu délibérément, l'État ou les administrations seraient intervenues délibérément dans le domaine économique. Eh bien, en fait, on l'a vu déjà à Luchon, on l'a vu à Cotteret dès le XVIIIe siècle, donc ce sont vraiment les pouvoirs publics qui impulsent ces stations, en mettant particulièrement à profit les coupes de forêts. Les forêts sont à ce moment-là quasiment annihilées, les forêts communales, pour financer les premiers aménagements à Cotteret et à Luchon. Bon, en Ariège, on voit se développer ça dans les années 1840, où le préfet d'Ariège voit que ce Couserans, là, cette partie du Couserans est relativement en déclin économique, et décide donc d'impulser une station touristique, une station thermale, qui puisse dynamiser cette partie de son département. Tous les préfets un peu partout ont voulu en fait laisser leur marque, la marque de leur passage, et ont voulu faire ce genre de choses. Et voilà, bon, donc c'est ce qui se passe en 1844. Donc il isole la source, elle était connue, mais voilà, il envoie en fait des malades, il envoie des rapports à l'Académie de médecine pour que l'Académie de médecine publie les résultats et fasse connaître au grand public cette source. Et il y a l'idée de spécialiser à ce moment-là Aulus-les-Bains dans une maladie qui fait frémir, qui est un petit peu considérée comme le mal du siècle, le 19e siècle. Cette maladie, plutôt honteuse, c'est la syphilis. Et donc, on va essayer de spécialiser au Luce-les-Bains à ce moment-là sur la syphilis. Alors, bon, en fait, l'essor est faible. La source est de propriété privée. Le propriétaire n'a pas assez de moyens en fait pour véritablement lancer l'exploitation. Mais dans les années 1870, pardon, eh bien, la route est enfin construite puisque voilà, on avait mis en avant cette source, mais on n'avait pas construit la route, hein, entre RC et Aulus. La route n'est construite, n'est vraiment carrossable qu'en 1871, c'est très tardif par rapport au reste des Pyrénées. Et donc à partir de là, eh bien, des investisseurs vont arriver. Investisseurs ariégeois, investisseurs toulousains, investisseurs parisiens. On est dans un moment, en fait, au niveau national, d'essor considérable d'un certain nombre de stations. On a des taux de croissance exceptionnels et des taux de rentabilité qui ne seront plus jamais égalés. En fait, entre les années 1850 et 1870, on a des taux de rentabilité des exploitations thermales absolument phénoménaux. Ça attire, là, sur ce site qui est encore relativement inexploité, ces investisseurs, et qui vont spéculer plus qu'autre chose sur la source. On est à un moment, au Luce-les-Bains, en fait, où toutes les propriétés qui sont autour de la source d'Aulus, là, de la source principale, la propriété est très morcelée, et chaque propriétaire, en fait, va essayer de détourner la source à son profit, puisqu'on ne connaît pas encore, à ce moment-là, véritablement, le parcours souterrain des eaux d'Aulus. Et donc, chacun va creuser des trous dans sa propriété pour essayer de trouver le point de sortie de la source, et voilà, détourner à son profit. Et on a là donc des capitaux importants qui vont investir, qui vont acheter les terrains et qui vont essayer de détourner les sources à leur profit. On va même, jusqu'à pour empêcher les autres de faire ça, on creuse des galeries souterraines pour intercepter les galeries que creusent les concurrents. Bon, la conclusion de cette histoire, à la fin des années 1870, vous avez un rapport confidentiel d'un médecin assez connu d'Ariège à ce moment-là, c'est un des grands médecins du 19e siècle pour la médecine thermale, Félix Garrigou, originaire d'Aix. Félix Garrigou, dans un rapport au préfet, hein, estime que les eaux d'Aulus, on les a perdues à force d'avoir fait tous ces travaux, on a perdu les propriétés originelles des eaux d'Aulus. Bon, là, il y a un premier essor dans les années 1800, au tout début des années 1870, on voit un essor des eaux d'Aulus, évidemment, à grand renfort de publicité, mais très vite, la rumeur se répand que les eaux ont été perdues, et l'élan d'Aulus, en fait, est interrompu, et progressivement, dès le début du XXe siècle, en fait, la station végète et s'écroule comparativement à ce qu'on peut connaître dans d'autres stations qui continuent leur croissance par la suite. Donc en fait, là, cette spéculation, ce moment d'arrivée des capitaux extérieurs, correspond à une courte apogée d'Aulus-les-Bains, et puis en même temps, en fait, nourrit son discrédit et nourrit son relatif échec, hein, la source va mettre très longtemps à renaître et aujourd'hui on est sur une fréquentation relativement modeste à Aulus-les-Bains. Alors voilà, bon, à ça c'est ajouté un problème au tout début du XXe siècle, juste une petite parenthèse, hein, en lien avec l'industrie. Il y a Vieille Montagne qui s'est installée en fin du XIXe siècle au-dessus d'Aulus pour une mine de plomb argentifère, si je ne me trompe pas. Et l'eau potable d'Aulus, l'eau qui alimente à ce moment-là, hein, les choses ont changé évidemment depuis, mais l'eau qui alimente l'eau potable d'Aulus vient en fait est captée juste sous la mine et à l'endroit où les résidus toxiques en fait sont évacués. Donc l'eau potable d'Aulus à ce moment-là est une eau polluée par l'industrie. Il y a donc divers facteurs qui sont gênants pour Aulus à ce moment-là. Alors deuxième temps pour les sports d'hiver, et je pense qu'il me reste très peu de temps, c'est ça ? Bon, sport d'hiver, le lieu historique dans le Couseran pour les sports d'hiver, c'est la zone au-dessus de Castillon, au-dessus de Bethmale, de la Rèche. Et puis, dès les années 1930, en fait, le ski club Saint-Gironnais isole une zone plus propice, qui est celle de Guzet. Guzet, où va naître donc la seule station véritable du Couseran, hein, les autres sont plutôt des stades de neige. Et pareil que la station thermale d'Aulus-les-Bains en fait en 1840, ben là en 1858, hein, c'est une opération de développement d'aménagement du territoire qui est mise en œuvre avec la station de Guzet, promue d'abord par un syndicat intercommunal, puis dans les années 1960, c'est une zone pilote pour les politiques d'aménagement rural, donc avec le ministère de l'Agriculture qui vient intervenir pour promouvoir Guzet en tant que, enfin la trappe à ce moment-là, la trappe Guzet. Voilà, pour relever l'économie du Couseran, associé à une politique de reforestation en résineux. Et donc, c'est ça le cœur de la politique de développement du Couseran. Et sur un site qui s'avère, et bon, je suis allé très vite, Il y a une volonté hein, sur ce site, dès le départ, en fait, de s'étendre en direction de la frontière, en direction du port de Couillac en particulier, et éventuellement de gagner l'Espagne, où dans les années 1970-1980, la société promotrice de Guzet promeut en même temps une station en Espagne, en Val de Cardos. Et cette extension est finalement bloquée avec un très fort conflit à la fin des années 1980, qui aboutit au classement du cirque de Cagatay. C'est pas le seul, il y avait aussi un projet de refuge au même moment. Enfin bon, je suis allé très vite, mais en gros, une station d'Olus de Guzet qui est aujourd'hui relativement exposée au problème du changement climatique. Voilà, bon, je suis allé un petit peu vite, c'est l'origine de cette route, de cette piste, mais je pense qu'ici, beaucoup doivent connaître cette histoire, et sûrement mieux que moi, hein, mais l'origine de la piste qui va au-delà du cirque de Gérac, c'était l'objectif d'aller capter les lacs d'Astoué, de Réglis, dans la vallée de Turguila, hein, d'aller capter pour alimenter les canons à neige à ce moment-là, hein, puisqu'on est, on est dans le début de l'essor des canons à neige, à la fin des années 1980, avec les gros problèmes d'enneigement qui se posent à ce moment-là. Voilà, donc l'aménagement est bloqué, la piste s'arrête nulle part aujourd'hui, après Guzet. Je vous remercie, j'ai été beaucoup trop lent, comme d'habitude.